Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, le numéro 173. Alors, vous avez vu, j'ai un petit souci pour prendre le rythme avec la naissance de ma fille, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais je vais trouver petit à petit mon organisation, d'autant qu'en fait, je rattaque vraiment à 100% le boulot dans les jours qui viennent, et donc il va falloir que je trouve mon calage. Voilà, alors, ça va prendre un petit peu de temps pour trouver vraiment le rythme que je souhaite. Vous voyez, cet épisode était normalement prévu le lundi, donc hier, hein, aujourd'hui on est mardi, j'ai eu du mal à l'enregistrer, je l'ai même pas du tout enregistré, je l'ai même pas préparé, et voilà, tout pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un petit peu mon calage, j'ai réussi à trouver un créneau, j'ai réussi surtout à me mettre un bout de temps, voilà, très clairement, avec un rythme très clair, c'est que j'ai pris un pomodoro de 25 minutes pour la préparation, et je me dis que je vais faire un pomodoro pour vous parler, c'est-à-dire à peu près 25 minutes. Voilà, ça serait le timing de l'épisode. On verra si je m'y tiens. Vous savez que je suis une vraie pipelette. Voilà. Bon, après, bien sûr, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu faire le deuxième épisode et l'épisode spécial pour les patrons. Hein, mais là, je vais me rattraper petit à petit. J'espère vraiment arriver à trouver le rythme. Janvier, c'est un mois vraiment qui était un petit peu compliqué parce que je maîtrisais pas tout. Le mois de février va être un mois un petit peu compliqué, je vous le cache pas, mais c'est là où je vais essayer de trouver le rythme. Le mois de mars, il faudra que j'ai trouvé le rythme, parce que ce sera un mois qui sera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, et le sujet de cet épisode part aujourd'hui sur une discussion que j'ai eue avec Matt, aka prof du web, sur les podcasts et sur YouTube. Alors, on a des discussions comme ça en dehors, il avait envoyé un petit mail en me disant qu'il trouvait que la publication du podcast sur YouTube tel que je le fais était pas très pro. Vous savez, ce que je fais, c'est que chaque épisode, quand je publie sur Spreaker qui héberge le podcast, et à chaque fois, j'appuie sur un bouton publier, et Spreaker génère une vidéo, mais qui en fait, c'est une image noire, mais vous irez voir sur la, il y a un lien dans les notes de l'émission. C'est une image noire, il y a juste la vague du son qui se joue, avec un petit bout de photo dans le coin, un petit logo Spreaker. C'est pas aussi beau que ce que fait Auphonic, hein, j'avais fait un tutoriel sur Auphonic, mais ça a un gros avantage, c'est que ça me prend une seconde à générer, parce que Spreaker génère la vidéo, la publie directement sur ma chaîne YouTube, et moi ça remplit ma chaîne YouTube, après j'ai juste à la mettre dans la bonne playlist. Mais il me dit, voilà, je trouve que ça fait pas très pro, et que en plus c'est pas très efficace. Alors, ces arguments, je vous les donne, parce que je suis entièrement d'accord avec ces arguments, mais je suis aussi un petit peu opposé. C'est pas ce que souhaite YouTube, parce que YouTube veut de la vidéo, le format recherché sur YouTube, c'est de la vidéo, et ça, c'est vrai. Là, moi, c'est de la fausse vidéo que je lui balance. Il y a un engagement qui chute vite, au sens où, dès les premières secondes, hein, d'après lui, ses tests et ses retours, et ben tout d'un coup, il y avait beaucoup moins d'écoute, ça chute, et c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques de YouTube aussi, hein, faut être honnête, comparé à ce que on connaît, notamment sur le podcast, où le podcast, vous avez une tendance à écouter jusqu'au bout, on a une tendance à écouter les épisodes en entier. Sur YouTube, les gens écoutent rarement la vidéo en entier. Même si, franchement, moi, sur mes stats, j'ai constaté que ce n'était pas forcément tout à fait le cas. Alors après, dans la suite de ces arguments, si l'engagement chute vite, il y a moins de vues, forcément on est moins positionné par YouTube, donc forcément on a moins de vues. Alors, moi mon avis, que certains d'entre vous y trouvaient leur compte, et que moi j'ai trouvé mon compte parce que c'était rapide, mais que certains d'entre vous y trouvaient leur compte. Certains n'écoutent d'ailleurs le podcast que par le biais de YouTube. Je le sais parce que j'ai posé la question. Certains me font des commentaires sur les épisodes postés sur YouTube. Certains réagissent à ces épisodes-là et j'ai posé la question à certains et je leur ai dit, mais est-ce que tu as une application de podcast sur ton téléphone, sur ton smartphone ou quoi que ce soit? Et certains m'ont dit non, pas du tout. Ils n'ont aucune idée d'utiliser leur application de podcast, même qu'ils n'en connaissent peut-être même pas le fait qu'elles soient installées s'ils sont sur iPhone ou que vraiment ils l'ont pas utilisé ou ils n'ont pas eu l'idée d'en installer une sur Android ou je ne sais pas quoi. Bref, pour eux, ça leur rend service. Pour moi, c'est aussi un moyen d'être écouté, d'être découvert. Certains, et beaucoup, et moi, j'en fais partie, on utilise aussi YouTube un petit peu comme une radio. Moi, par exemple, je passe ma journée à lire des vidéos YouTube sans les regarder. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont intéressantes, dont le son m'intéresse, mais vous voyez, typiquement, ce que je suis en train de faire là, je me dis, j'ai pas besoin de voir le mec en train de bouger à l'écran pour savoir ce qu'il raconte, j'ai juste besoin de l'écouter. Donc, la vidéo me rend pas service. Donc, je laisse la vidéo en fond, voilà, très clairement. Et en plus, c'est un comportement que font beaucoup d'adolescents, puisque les adolescents ont une tendance à écouter la musique comme ça sur YouTube gratuitement, et ils laissent en fait leur téléphone tourner en fond, il y a même des astuces pour que la vidéo ne se coupe pas. Et je suis persuadé d'ailleurs qu'avec les abonnements Red, les Google Home et compagnie, ça va pas diminuer ce comportement-là. Mais bon, voilà, c'est... on peut pas généraliser non plus, ça fait partie de certains comportements. Et puis comme je disais, moi ça me prend qu'une seconde à faire, donc quelque part... J'ai envie de vous dire, c'est un petit plus que je donne à ceux qui auraient ce comportement-là, cette utilisation-là de YouTube, sans que moi, ça me coûte beaucoup de choses. Mais bon, on a continué la discussion, il m'a donné un nom de chaîne, j'ai regardé. En fait, j'étais pas super convaincu par ce que j'ai vu, par la plus-value, mais je me suis dit que ça pouvait quand même avoir son intérêt. Voilà, donc j'en ai regardé d'autres, j'ai vu que pas mal de gens le faisaient, etc. Donc je me suis vraiment posé la question, et je me suis dit, bon... Le meilleur moyen, c'est de faire un test. Et pour trancher, je lui ai dit, je vais faire une expérimentation. Alors, bien sûr, si vous écoutez ce podcast en audio, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la différence. Enfin, vous pouvez pas la voir, vous pouvez pas l'entendre, puisque j'enregistre exactement dans les mêmes conditions au niveau du son, avec le même logiciel. En revanche, si vous avez l'habitude de regarder le podcast sur YouTube, enfin de l'écouter sur YouTube, eh ben vous voyez ma tête. Eh ben oui, je suis là, je suis en face de vous, vous pouvez voir ma tête. Donc, si vous l'écoutez tout de suite en audio et que vous voulez voir à quoi ressemble ma tête quand je fais le podcast, eh ben vous pouvez basculer sur YouTube et vous verrez exactement la même chose, mais en vidéo. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je voulais faire une expérimentation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a des discussions de ce type-là, on ne peut avoir une réponse, on peut pas avoir une réponse tranchée. Hein. C'est pas c'est vrai, c'est faux, quoi que ce soit. Il y a forcément à un moment donné... Il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Le problème, c'est comment on fait pour trancher. J'ai décidé donc de faire une expérimentation, et le but de mon expérimentation, c'est de savoir si je dois, quelque part, quelle est la plus-value que j'aurai à faire ces épisodes-là en vidéo, et aussi, bien sûr, si quelqu'un pose la question, de pouvoir lui répondre, lui dire « Attention, ça te prend du temps, ça te prend pas de temps, ou quoi que ce soit. » Alors, je suis désolé, je viens de taper dans le micro, j'espère que vous l'avez pas trop entendu. Mais j'ai besoin, voilà, pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de faire une expérimentation. Et c'est là-dedans que je voulais venir là-dessus, c'est qu'en fait, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est un petit peu la démarche scientifique. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on prenait la réponse à cette question-là sur un plan scientifique. Alors moi, je suis pas un scientifique. Je vais pas vous dire, voilà, une démarche scientifique de A à Z ou quoi que ce soit. J'ai pas décidé d'avoir une démarche scientifique globale, etc. J'ai pas vraiment dans la précision. Mais ce qui m'intéresse dans la démarche scientifique, c'est qu'en fait, on a des hypothèses et qu'on doit les vérifier. On doit chercher des causes et des effets. On doit vérifier que l'effet est bien lié à la cause, hein, et c'est pas juste une corrélation imaginaire, une corrélation qui ne marche qu'une fois sur trois, une fois sur deux, mais une fois sur deux, c'est pas si mal que ça, mais des fois, vous avez l'impression que certaines corrélations sont évidentes, et pourtant, elles ne le sont pas du tout. Par exemple, en médecine, on s'intéresse aux symptômes, mais il faut vérifier que le symptôme et les causes soient bien liés. Et là-dessus, je vous renvoie à la lecture d'un bouquin qui s'appelle « Petite philosophie du rhume » de Maël Lemoine, qui est un bouquin qui fait une centaine de pages, qui est excellent. Allez, hop, si vous êtes en vidéo, vous le voyez, je vous mets la couverture devant, je vous mets un lien de toute façon dans les notes de l'émission, si vous avez envie de l'acheter, de regarder à quoi ça ressemble. Et en fait, il part du principe d'une vieille croyance, une croyance importante, c'est on prend le rhume, on attrape froid, voyez. C'est-à-dire que, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est « Ah, je me suis enrhumé, j'ai pris froid, je me suis enrhumé ». Et en fait, son idée du livre, c'est de voir est-ce que ça s'appuie vraiment sur des vrais études scientifiques, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quel est le fondement de tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il appelle à se poser des questions, et notamment se poser des questions sur est-ce que c'est une croyance qui s'appuie sur quelque chose de scientifique, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui s'est construit comme ça au fil du temps sans trop qu'on sache pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée comme ça? Et finalement, si c'est pas le froid qui apporte le rhume, d'où viendrait le rhume et comment on pourrait s'en protéger? Et en fait, on a plein d'éléments dedans de réflexion qui sont intéressants, et notamment des éléments sur les symptômes. C'est-à-dire que le symptôme d'avoir froid et le symptôme de prendre le rhume sont peut-être identiques, ou sont en partie identiques, mais c'est pas parce que vous avez le symptôme du froid que forcément vous êtes enrhumé. Vous voyez un petit peu la logique. Et pour répondre à de telles questions, il faut expérimenter. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi ils nous parlent de rhume, de médecine ou quoi que ce soit? Eh ben, c'est-à-dire que dans le domaine de la communication, du marketing, de l'entrepreneuriat, du web, du commerce en ligne, de tout ce que vous voulez, il faudrait qu'en fait on ait cette logique-là. Est-ce que les symptômes et les effets, et un petit peu la maladie, est-ce que tout ça est lié, ou est-ce que finalement on a des croyances, vous voyez, de se dire, bon, ben, je pensais que ça marchait comme ça, je pense que ça marche comme ça, ça a l'air de marcher comme ça, j'y touche pas trop. Mais en fait, si ça se trouve, en faisant autrement, on serait capable d'avoir des meilleurs résultats ou des résultats différents, mais le seul moyen, c'est de le tester. Et c'est là où je voudrais vraiment en venir, c'est que un risque, par exemple, de symptômes, de faux, vous voyez, de faux résultats, de fausses démarches scientifiques, ça serait de dire, je fais cet épisode-là en vidéo, je le publie sur YouTube, et au lieu de faire 50 écoutes sur YouTube, il en fait 5000. Soyons fous. Imaginons, il fait 5000 écoutes. Que se passe-t-il dans ma petite tête? Je me dis, oh, oh là là, mais alors le prof du web, il est encore plus génial que je le pensais. Il m'a dit que je vais le faire comme ça, c'était bien mieux pour le podcast. Mais en plus, il a mais raison à un point incroyable. Mon truc, il faisait 10 ou 15 vues ou 50 écoutes sur YouTube, d'un coup, il en fait 5000. Mais bordel, pourquoi je l'ai pas fait avant? Ça validerait, comme ça, d'un coup, le fait que bah, je dois faire tous mes épisodes en vidéo. Mais est-ce que finalement, c'est bien ça la réalité? Est-ce que c'est bien ça la cause de tout ça? Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est que finalement, une vidéo qui fait 5000 vues sur YouTube, il peut y avoir plusieurs causes. Voilà. C'est pas le fait de mettre la vidéo, le podcast en vidéo qui va garantir que ça fasse 5000 vues. Sinon, ce serait trop facile. Vous imaginez bien, tout le monde se filmera en train de parler devant sa caméra et tout le monde ferait 5000 vues. Non, j'ai des vidéos qui font 20 vues, j'ai des vidéos qui en font 80, j'en ai qui font 5000 ou 6000. Mais c'est pas juste le fait d'être devant. Alors, comment est-ce qu'on tranche ça? Eh ben, on tranche ça en faisant des tests. Et c'est pour ça que vous me voyez là en vidéo sur YouTube. C'est que le test, c'est de dire, je peux pas faire une vidéo, voir le résultat en disant, parce qu'il y aura un autre truc qui serait de dire, allez, je mets la vidéo, elle fait 50 vues comme d'habitude. Bon, ben, je dis un autre truc, je dis, bon, prof du web, il raconte des conneries, en fait, il est pas si génial que ça, il me raconte une grosse connerie. Non, ça serait faux aussi. Parce que qu'est-ce qui peut faire qu'une vidéo sur YouTube fera des vues? Bah, tout simplement, le sujet se prête plus à des recherches sur la thématique du moment. Ça peut être un sujet qui est plus d'actualité, ça peut être la vidéo a été relayée par un influenceur, ça peut être un coup de bol, allez savoir, hein, quand j'ai un coup de bol. Je sais pas, j'ai mis un bon titre qui correspondait à des recherches ou j'en sais rien, quoi, je l'ai même pas fait exprès, mais quelque part, ça tombait dessus. Non, il peut y avoir plein de raisons pour qu'une vidéo fasse 50 vues ou 5000 vues, mais ça peut être le sujet, ça peut être la manière dont c'est traité, ça peut être la communauté, ça peut être des gens qui la poussent, ça peut être ma manière à moi de la pousser, ça peut être les relais que nous pouvons avoir, et en fait, on peut pas en tirer un comportement général sur une vidéo ou deux vidéos. En fait, pour arriver à avoir la réponse à ma question, je suis obligé de tester ça plusieurs fois. Je suis obligé de répéter l'expérience, et c'est ça l'expérimentation. C'est pas parce que, et pour en revenir à l'histoire du bouquin sur le rhume, c'est pas parce que il y a 10 personnes, vous les mettez dans le froid, elles s'enrhument, que c'est valable pour 50, 60 ou 10 millions de personnes. Parce que si ça se trouve, c'est ce qu'il expliquait très bien dans le bouquin, c'est que les 10 personnes que vous mettez dans le froid, dans ces personnes-là, il y en avait déjà une qui était malade, et le fait que la personne soit malade, elle peut très bien passer son rhume aux autres personnes pendant qu'ils se les caillent ensemble, et c'est pas parce qu'ils ont eu froid qu'ils sont malades, mais parce qu'il y en a une qui était malade. Vous voyez un petit peu la différence et les problématiques. Non, pour que une expérience scientifique marche, il faut la tester sur du monde important, valider que en fait il n'y a pas de syndrome de cause extérieure, etc. C'est un petit peu compliqué, la démarche scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que pour répondre à la question de Matt, enfin qui n'était pas une question, mais qui était des idées et autres, je suis obligé d'expérimenter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'essayer de faire une vidéo, de voir ce qui se passe, mais c'est de reproduire. Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux ne pas l'améliorer ou pas? Est-ce que à chaque fois que je vais publier un podcast sous la forme de vidéo, mais de vraies vidéos sous YouTube, est-ce que sous YouTube, l'épisode aura plus de succès que quand il était publié seulement en images? Vous voyez un petit peu vers là où je veux aller dans mon expérimentation et pourquoi c'est important d'expérimenter. Parce que on peut le reproduire sur plein de choses. Ça pourrait être sur une boutique en ligne. Vous mettez en vente un produit. Le produit se vend bien. Bon, il peut y avoir plusieurs causes pour lesquelles il se vend bien, mais si ça se trouve, vous allez mettre quelque temps après un autre produit qui ressemble à ce premier produit, il se vendra mal. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a un c'est bien vendu, que l'autre ce sera mal vendu? Comment vous allez trancher entre les deux? Imaginez par exemple votre blog. Vous mettez un article sur votre blog. Vous en mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 10, 20. Et vous vous rendez compte en fait que un jour vous en mettez un autre sur un sujet et puis cet article-là, il fait un carton. Il dépasse vraiment tout. Est-ce que vous êtes certain que c'est le sujet? Est-ce que c'est certain que c'est la manière dont vous l'avez traité? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a relayé? Est-ce que il s'est bien classé dans les moteurs de recherche, etc.? Pourquoi il s'est mieux classé? Est-ce que c'est de la manière dont il a été écrit? Bah voilà, il y a énormément de choses qui peuvent jouer. Et le seul moyen de vérifier tout ça, eh ben, quelque part, c'est de reproduire l'expérience. De voir, par exemple, que si vous avez un billet de blog qui a bien marché, est-ce que vous êtes capable, en reprenant la même recette, les mêmes thématiques, la manière de l'écrire, le titre, ou je sais pas quoi, votre stratégie pour bien le positionner, est-ce que vous êtes capable de reproduire et de dire, je sais pas, je vais en faire 3, 4 de plus et je vais voir. Et je dis pas que tous vont marcher, mais est-ce que j'arrive à retirer de mes expérimentations un petit peu la recette de ce qui va très bien marcher? Et ça fait partie un petit peu de ce que je vous ai dit dans le contenu minimum viable. Ça, on en avait parlé aussi avec Maximus à propos de la vidéo, etc. À un moment donné, quand on fait des contenus, le fait de faire beaucoup de contenus vous permet de tirer quelques leçons. Dans mon expérimentation de la vidéo, le problème, c'est que si je ne fais qu'un épisode de podcast en vidéo et que je ne publie que cet épisode-là, je ne peux pas en tirer de conclusion. Donc, je dois faire des essais. La conséquence de cette démarche scientifique, elle est là-dedans. Elle est que vous devez expérimenter. Le seul moyen de savoir, c'est d'expérimenter. Mais attention, hein, il faut persévérer suffisamment de temps. Il faut établir les causes et les effets. Des fois, ça peut être le succès d'un contenu peut venir du sujet. Des fois, ça peut être venir du timing dans lequel vous l'avez publié. D'une fois, ça peut être que vous êtes tout simplement fait plus d'efforts pour le diffuser. Peut-être que vous avez envoyé le lien à plus de personnes. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Il faut arriver, en fait, à isoler les différents facteurs et regarder quel est le facteur qui va vraiment jouer. Et puis, il y a une autre conséquence importante dans ce que je viens de vous dire, dans cette démarche scientifique, c'est qu'en fait, vous ne devez pas trop écouter les autres. Soyons honnêtes, vous ne devez pas trop écouter les autres, les conseils des autres, et c'est valable aussi pour les miens. Oui, c'est valable pour les miens. Là, vous dites, il est complètement fou, mais en fait, je vous donne plein de conseils, mais ça ne veut pas dire que vous devez les prendre au pied de la lettre. Il y a beaucoup de conseils, mais je vous rappelle que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et qu'en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils, mais que c'est vous qui subissez les conséquences d'avoir écouté leurs conseils. Eux s'en foutent. Moi, je peux vous donner tous les conseils que je veux. C'est vous qui allez subir les conséquences si vous écoutez ou pas mes conseils. Moi, je suis dans mon coin tranquillement. À la limite, je pourrais même vous donner des conseils que je ne suis pas. Si vous suivez des conseils que je ne suis pas et que ça marche, tant mieux pour vous. Ça marche pas, tant pis pour vous. Mais moi, ça me changera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, ma logique, elle est pas là-dedans. Ma logique à moi, c'est de vous donner des conseils qui, pour moi, me semblent être les meilleurs possibles au moment où je vous les donne et qui, en tout cas, chez moi, je les ai expérimentés, je les ai testés. Mais à un moment donné, il faut vous faire votre propre religion, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut faire votre propre expérimentation. Vous avez entendu qu'un blog, ça ne sert à rien. Qui vous dit ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment expérimenté le blog ou c'est quelqu'un qui l'a juste lu? Vous voyez, des gens me disent « Ouais, mais un blog, ça sert à rien. » Mais quelqu'un qui me dit ça alors qu'il a fait 3 articles sur son blog, oui, son blog a 3 articles, il ne sert à rien, soyons honnêtes. YouTube est fermé aux petits. Je vous le dis très clairement, vous pouvez exploser les compteurs en quelques jours avec une seule bonne vidéo. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui avait une chaîne qui était suivie par quelques centaines de personnes, qui a une vidéo qui a été vue par 80 000 personnes dans une seule journée. Pourquoi ? Parce que la thématique est devenue porteuse, et derrière il y a des abonnés qui ont été gagnés. Vous voyez un petit peu la logique. Combien de personnes vous disent que Facebook est mort ? Hein, franchement, combien y a de personnes qui vous disent que Facebook est mort ? Mais regardez combien il y a de personnes qui sont sur Facebook. Regardez aussi, finalement, les personnes qui vous disent que maintenant que Facebook est mort, sont peut-être aussi les personnes qui vous disaient il y a quelque temps, il faut dépenser des centaines d'euros dans Facebook pour lancer un produit, pour lancer un blog, pour lancer une vidéo, quoi que ce soit. Attention, c'est eux, je peux vous donner des conseils, n'importe qui peut vous donner des conseils, mais à un moment donné, c'est à vous d'expérimenter, de vous dire, bah tiens, si je mets 5 euros de pub dans une vidéo, pour soutenir une vidéo sur Facebook, ça me sert à quelque chose ou ça me sert à rien? Comment je le mesure? Comment je suis capable de voir si ça marche ou pas? Eh ben, c'est l'expérimentation. De même que ce n'est pas parce que j'ai une tendance à abandonner le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu pour lancer un forum externe que c'est forcément une bonne idée. C'est une expérimentation. Et ça ne veut pas dire aussi que vous devez faire la même chose ou que vous devez vous dire « Bon non, attends, votre coach web, Bertrand, il utilise plus les groupes Facebook. » je vais pas lancer mon groupe Facebook. Non, attention, c'est à vous d'expérimenter. Moi, je suis sur mon chemin d'expérimentation et dans quelques temps, je vous dirai où j'en suis. Il faut prendre ces conseils pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des avis, des tests, des fois, ils sont un petit peu orientés sur certaines choses, mais vous devez, en tout cas, vous dire que, quelque part, c'est vous qui allez en subir les conséquences des conseils que vous allez suivre. Donc, le mieux, en fait, c'est que il faut faire les choses. Vous devez expérimenter, je vous le redis, vous devez tester, vous devez aussi être très pragmatique dans cette histoire-là. C'est-à-dire que il y a peut-être certaines choses qui ne font pas aussi pro, sont pas aussi top que ce que vous pensez, mais c'est comme pour le matériel, ça peut être pour plein de choses, et c'est le cas pour mes histoires de vidéos. Mais quelque part, la balance entre les coûts et les avantages, hein, dans quel côté elle penche ? Je vous donne l'exemple de la balance. Prenez par exemple ce que je suis en train de faire, cette histoire de vidéo. Dans mon cas, comment la balance peut pencher ? J'ai d'un côté, je fais mon épisode de classiquement, je l'enregistre avec Hindenburg sur mon ordinateur, je balance ça sur Spreaker, je coche ma case envoyée sur YouTube, et en une seconde, ma vidéo est sur YouTube. À côté de ça, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est j'ai dû remettre un petit peu d'éclairage, j'ai dû modifier un petit peu ma manière de voir mon écran, j'ai démarré l'enregistrement vidéo, j'ai démarré l'enregistrement audio, je vais devoir vérifier les coupures, la synchronisation, je vais devoir balancer la vidéo sur YouTube, balancer le son sur Spreaker, vous voyez déjà le temps que ça me prend. Si je gagne beaucoup de vues, si vraiment ça devient beaucoup plus visible, ça peut être intéressant, sauf si le temps pour le faire est là est trop important et que quelque part ça me coûte trop de temps pour faire ça. Par exemple, quand j'étais en quotidien, je sais qu'il était impossible en quotidien de filmer systématiquement tous les podcasts, tout simplement parce que c'était, comment vous dire, ça prend trop de temps de balancer la vidéo, balancer un son sur Spreaker. Moi, ça me prend quoi ? Allez, on va dire, le temps de l'exporter, ça me prend 3 minutes. Le temps de l'envoyer avec la fibre, ça me prend 1 minute à 2 minutes. En 5 minutes à peu près, mon son du podcast est publié sur Spreaker et donc dans iTunes et compagnie. Rien que pour la vidéo, rien que le temps d'exporter la vidéo, dans tous les cas, ça sera plus long. Donc ça, je le sais. Mais on va regarder maintenant la balance positive. Et la balance positive, je ne la connaîtrai que dans quelques temps. Peut-être, je vous le dis, que ça sera intéressant, peut-être que ce sera pas intéressant, peut-être que le bénéfice en nombre de vues sera intéressant, mais peut-être que ça me prendra tellement de temps que finalement je reviendrai à mon format d'appuyer en une seconde et que je garderai sur ma vidéo pour certains épisodes un petit peu exceptionnels. Mais ça, je peux pas le dire et je vais le dire en fait en expérimentant. L'avantage de cette démarche de faire ça, c'est qu'en fait, vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Vous comprenez les rouages des choses, de comment ça marche. Vous comprenez très précisément de « Ah bah tiens, j'ai fait ça sur mon blog, ça a marché, j'ai fait ça sur mon blog, ça a marché, j'ai fait ça 10 fois sur mon blog, ça a marché 9 fois sur 10. » Je comprends pourquoi ça marche. J'applique pas bêtement la recette d'un autre, j'applique pas bêtement la recette d'un bouquin, d'une formation, je ne sais pas quoi. Je sais pas, par exemple, on vous dit les permaliens dans WordPress, il faut faire attention pour le SEO. Vous appliquez ça bêtement, mais Ce qui vous intéresse, vous, c'est de comprendre la logique. Pourquoi on vous dit qu'il faut faire ça, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, etc. C'est en le faisant que vous allez apprendre à le faire. Vous allez gagner la compétence de savoir pourquoi vous le faites, et surtout, vous allez même savoir expliquer pourquoi vous le faites ainsi. Et c'est là où vous allez gagner la plus grande compétence, c'est parce que quand vous êtes capable d'expliquer de « bon, il y a telle et telle manière de faire les choses, moi j'ai choisi telle manière, pour telle raison, parce que j'ai testé de telle et telle chose », et ben quelque part, vous êtes, je sais pas, déjà vous avez gagné de la compétence, vous avez appris une nouvelle chose, vous êtes capable de l'expliquer à d'autres personnes, vous êtes capable de vous l'expliquer même à vous-même, c'est-à-dire de vous faire une sorte de checklist en disant « bon, je sais que pour maximiser mes chances de réussite, je dois faire ça, ça, ça et ça et ça ». Et rien que ça, c'est un bénéfice immense. L'expérimentation, c'est ce qui vous permet d'apprendre des nouvelles choses, plutôt que d'appliquer bêtement en vous disant « bah tiens, je vais faire ça, 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 comme j'ai vu un autre ». Vous devez regarder ce que font les autres, vous devez digérer, vous devez expérimenter. Mais pour que ça marche, vous devez expérimenter longtemps. Vous ne pouvez pas ouvrir un blog et 3 semaines après vous dire « ça marche pas, vous avez fait que 3 billets de blog ». Quelqu'un qui dit, même quelqu'un qui aurait par exemple un blog ouvert depuis 6 mois, vous voyez, avec à raison d'un article par semaine, on sera à quoi? Allez, 25 à 30 articles. Franchement, en 6 mois, vous pouvez pas tirer les bénéfices d'un blog. En 6 mois, vous pouvez pas savoir si votre blog apporte du bénéfice ou pas. Bien sûr, vous aurez une visite à court terme, vous pouvez avoir des bonnes visites ou des mauvaises visites, mais c'est pas parce que vous avez un bon démarrage que ça va durer dans le temps. Ce n'est pas parce que vous avez un mauvais démarrage que votre blog ne va pas prendre une certaine ampleur au niveau visibilité. Et c'est pareil pour plein de sujets. C'est pareil pour tout ce qu'on fait sur Internet. Et c'est pour ça qu'il est important d'expérimenter, mais d'expérimenter dans le temps. Ne vous dites pas en 3 jours j'ai le résultat. Ne vous dites pas en 3 semaines j'ai le résultat. En fait, ce n'est pas vrai. Surtout, l'avantage de cette démarche, en fait, c'est qu'elle vous ouvre des portes. Plutôt que d'écouter des conseils de vous dire le blog ça ne sert à rien, YouTube ça ne sert à rien, Facebook ça ne sert à rien, maintenant il faut faire Twitter ça ne sert plus à rien, quoi que ce soit, ça vous ferme des portes. Le fait d'expérimenter, de vous dire bon, peut-être ça va être dur de faire du YouTube, mais j'y vais, ça vous ouvre une porte, ça vous ouvre une opportunité. Vous n'êtes pas certain que votre blog aura un intérêt, vous n'êtes pas certain de savoir si vous pourrez tenir dans la durée sur votre blog ou que ce soit, mais vous ouvrez une opportunité, vous ouvrez très clairement une porte. Et chaque porte que vous ouvrez, c'est une opportunité, à condition, je vous le redis, de garder la porte suffisamment longtemps pour voir si finalement l'opportunité elle est intéressante ou pas pour vous. Voilà un petit peu la conclusion de ce que je voulais vous dire là-dessus. Vous voyez, ça part d'une simple discussion. Ça m'a un petit peu trotté dans la tête. D'ailleurs, j'ai pas répondu à Matt sur l'instant. J'avais pris une petite journée de réflexion. J'avais regardé, il m'avait envoyé des liens, des conseils, etc. Moi, voici ma position là-dessus. Je vais maintenant lancer cette expérimentation, c'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, il y aura peut-être pas tous les épisodes, mais un maximum d'épisodes seront aussi en format vidéo sur YouTube, exactement comme l'est cet épisode-là. Et on fera les comptes dans quelques mois de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les vidéos qui ont été filmées de cette manière-là, les épisodes filmés de cette manière-là en vidéo, sont plus vus que les autres qui étaient simplement une image avec noir, avec juste une petite vague de son à l'écran. Je peux pas vous répondre, je n'en sais rien tout de suite, mais promis, on fera un bilan dans quelques mois quand j'aurai une réponse à cette expérimentation. Voilà. N'oubliez pas qu'on peut discuter de tous ces sujets-là sur les réseaux sociaux, qu'on peut se retrouver dans le club des créateurs de contenu moins sur Facebook, mais vraiment maintenant dans le forum, vous faites club.votrecoachweb.com, c'est dans les notes de l'émission dans tous les cas. On se retrouve aussi sur Patreon, je vous rappelle que quand vous êtes sur Patreon, même que vous donniez 1€, 2€, 3€, 10€, vous pouvez donner plus, il n'y a pas de limite maximum, mais vous pouvez donner plus, mais vous pouvez donner 1€, vous avez droit aux épisodes réservé au patron, et les épisodes réservés au patron, c'est chaque semaine un épisode de podcast qui lui ne sera, je pense, qu'en audio, parce que le flux de Patreon est vraiment basé sur de l'audio, donc je pense qu'il ne sera qu'en audio, mais allez savoir, pourquoi pas, peut-être qu'il sera en vidéo, je ne sais pas, faut que je regarde techniquement comment ça marche, mais vous avez un épisode qui vous sera dédié, qui sera réservé au patron, et qui n'apparaît pas dans le flux public que vous êtes en train d'écouter maintenant. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures et je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous avez écouté cet épisode. Ciao, ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.